Un an passa. Antoine fit jouer une pièce qui provoqua un élan d'amour dans sa ville. Tous les soirs, les planches poudreuses de la Seine furent comme un profond divan où il posséda le cœur blessé, le cœur traîné des nerveuses spectatrices. Ce triomphe lui fut sensible. Il se crut heureux. Un matin, un jeune poète qui admirait Antoine lui apporta le manuscrit d'une pièce en vers. Ce poème était élégant comme Racine, passionné comme Michelet, orgueilleux comme Antoine Arnauld, et ce jeune homme avait 20 ans. Antoine le fit revenir et il le regarda. « C'est bon, pensa-t-il avec une affreuse douleur. Quand je serai vieux, on me remplacera. Je ne manquerai pas au monde. Voici des garçons de 20 ans qui ont autant d'ardeur que moi. » Il eut envie de mourir. Encore une année passa. Antoine songea au voyage, il partit, il cherchait de beaux silences, de graves enseignements. Il vit l'Espagne, dont la terre brûlante et jaune s'ajustait si bien à lui, qu'il en faisait son manteau, sa pâture, son amour et son cimetière. Il revit Venise, royale et triste, ainsi qu'une âme, dans les nobles langueurs du jour. Mais la nuit, jardin violent, guitare rouge, casino de délire et de rêve. Hôtesse rémunérée qui attire sur ses liquides places les jeunes hommes, les petites filles. Il détesta cette libre chambre de volupté, Venise. Il hait le métier qu'elle fait. Il méprisa cette chanteuse, cette excitatrice avisée qui dit « Tordez vos mains pour mes trop doux parfums, levez vers moi vos visages où luit la plus basse anxiété, traînez-vous, dites ce que vous voulez de moi, ah, oserez-vous dire ce que vous voulez de moi ?» Antoine vit que les fenêtres étaient fermées au palais de la comtesse Albi. Ce fut un vide plus profond dans son cœur. Il parcourut les sèches rues, glissa sur les rues Bandeau, s'assit au restaurant de la place Saint-Marc, du Cappello Nero, de la Città di Firenze. Son passé marchait auprès de lui, s'asseyait à côté de lui. Il pensait « Je suis venu ici autrefois quand j'étais comme un enfant. Les yeux de l'homme dépoétisent. » Il savait bien que Venise ment, que tout ment, qu'il n'est pas de bonheur, seulement une fuite rapide du temps et des souvenirs qui s'usent. Il cherchait à s'oublier, il poursuivit l'ombre de Musset, de George Sand, goûtant un petit recueil de leurs lettres, et le léger dessin, la tendre caricature que Musset fit de sa maîtresse, profil rond et doux comme une laque, semblable à un délicat poisson d'or du Japon. Honorant la retraite de Byron, il s'attarda au couvent des Arméniens, où ces jeunes hommes polyglottes, typographes obstinés, courbes, sur de pacifiques presses, des colères d'enfants et de prêtres, se taisent, cependant que gronde en eux l'ardeur des catholiques romains et les soupirs de la lointaine Etchmiadzin, la résidence odorante, où, dans les jours de juillet, sous un immobile soleil, les roses, comme de l'eau, bout. Ainsi les journées passaient, mais la langueur des soirs, les nuits, les chants sur l'eau, toujours ce chant de Sainte Lucie, et la solitude brisaient les nerfs d'Antoine Arnauld. Langueur de Venise qui est là, et là, et là-bas encore. On ne peut la fuir ni l'atteindre. En quel point de l'espace cachez-vous vos racines, votre tendre noyau? Ah, beauté perfide et mortelle, s'écriait Antoine. Soyez un jardin pour que je le pille, un trésor pour que je le disperse, une nymphe rebelle pour que je t'enchaîne et te morde. Il pensa aux jeunes femmes qu'il voyait passer dans les barques. Il s'émut que, plus fragile, elles eussent aussi à supporter cette inépuisable langueur. Avec pitié, il se souvint d'une délicate et pâle meurtrière au XVIIIe siècle, qui, voyant se préparer le supplice de la question, demandait faiblement « Comment ferez-vous entrer tant d'eau dans un si petit corps ?»« Oui, comment tant de mélancolie le soir à Venise peut-elle entrer dans de si petits corps ?» Antoine se lassa. Il quitta Venise en se souvenant qu'autrefois, il l'avait aimée comme une femme qu'on aime, comme une chair insensée qui dénoue ses cheveux pour tous les autres hommes, comme une poulpe divine dont les bras liquides lui couvraient le cœur. Il n'eut pas envie de continuer sa route. Il se retira près de Grasse, dans un secret village au pli d'une colline, où, sous le soleil, les herbes sèches, fortes et mêlées, donnaient l'odeur de la chartreuse. Il travaillait, il lut, il demeura 6 mois caché. Il ramenait quelquefois, pour quelques heures, dans son logis, de jeunes femmes champêtres, rieuses, bienveillantes, dévêtues. Et Antoine ne prenait point d'intérêt à ses plaisirs, d'où toute torture était absente. Il relisait Stendhal, ses larmes coulaient. « Ah, pensait-il, Julien Sorel, la suprême jouissance, c'est vous qui l'avez goûtée, dans le mortel cachot, lorsque vos caresses froissèrent jusqu'à réveiller une plainte la douce épaule que votre balle avait brisée. » Attends, là, j'aimerais bien lire cette phrase, parce que là, elle était un peu lourdingue. Je reprends. « Ah, pensait-il, Julien Sorel, la suprême jouissance, c'est vous qui l'avez goûtée dans le mortel cachot, lorsque vos caresses froissèrent jusqu'à réveiller une plainte, la douce épaule que votre balle avait brisée. Tendre madame de Rênal, douleur dans la volupté. » Martin le Nôtre, un soir, vint jusque sur cette colline chercher son ami. Il avait fait ce voyage, Antoine le reçut avec surprise et mécontentement. Mais Martin, tout de suite, gravement, parla. « Je t'assure, disait-il, que cette fille aînée du peintre Gérard d'Ancre, l'aimable Madeleine, serait dans ta vie une compagne délicieuse, patiente, inlassable. » Antoine demanda quelques jours pour réfléchir, puis il revint à Paris, céda au désir que Martin témoignait de lui faire connaître la jeune fille. Mais dès qu'il la vit, et quoiqu'elle lui parût charmante, il lui fut hostile. Il la regardait avec défiance et dédain, avec impertinence, comme si elle se fût arrogé le droit d'entrer dans sa vie, de la partager. Quand même il accepterait cette jeune fille blonde et polie, sa destinée brillante ne serait jamais entre de si fragiles mains. Lorsqu'il l'eut vue plusieurs fois et qu'il se fut assuré de la parfaite soumission de son caractère, il avertit Martin que sa résolution était prise, qu'il épouserait Madeleine. Il s'y décidait, sans bonheur, mais sagement. La vie nomade déséquilibrait son travail. Il avait besoin d'une enfant simple auprès de lui. C'est elle, pensait-il, en regardant Madeleine, qui déjà tendrement l'aimait. N'étant point épris de sa fiancée, Antoine n'interrompait pas Martin le Nôtre lorsque celui-ci l'intéressait aux agréments que ce mariage lui donnerait. « Oui, lui expliqua un jour Martin, non seulement Madeleine est riche, mais son père ne cessera de l'avantager, car des deux filles de Gérard d'Ancre, celle-ci est la seule qu'il aime. La seconde, Élisabeth, fut toujours loin de son cœur. » Et Martin avoua avec embarras, « Il n'est point sûr qu'Élisabeth soit sa fille. » Quoiqu'Antoine ignorât la jeune fille dont il savait seulement que, âgée de 15 ans, souffrante ou capricieuse, elle voyageait ou se reposait dans une solitude complète, invisible pour sa sœur même, il obligea, par son insistance, Martin le Nôtre à découvrir tout le secret qu'il eût voulu garder. Ainsi Antoine apprit que Gérard d'Ancre, ayant été quelques années après son mariage, appelé à la cour d'Espagne pour faire le portrait des petites infantes, et ayant emmené avec lui sa femme, qui était belle, celle-ci inspira une vive passion à un prince espagnol. Gérard, s'étant aperçu de cette intrigue royale, ramena sa femme en France, ne sachant point si elle était coupable. Mais, quelques mois après, la naissance de la petite Élisabeth envenima ses soupçons. Il ne put chérir cet enfant. La jeune femme ne vécut pas longtemps. Elle laissait à son mari un doute brûlant et vivant. Attristée de ce que l'innocente Madeleine eut pour sœur une petite fille étrangère, Antoine s'attendrissait de la voir le soir, écrire sagement la tête penchée sur le papier, à cette sœur énigmatique dont on ne pouvait penser beaucoup de bien car Madeleine, ayant témoigné l'ardent désir de la voir revenir auprès d'elle, elle reçut de la vieille gouvernante voyageant avec Élisabeth un mot qui disait « Nous ne saurions nous décider à venir assister à votre mariage. Votre bonheur, ma chère Madeleine, ferait du mal à votre sœur. » Petite sœur égoïste, pensa Antoine, qui s'affligeait du chagrin qu'éprouvait sa fiancée. Le mariage eut lieu en janvier, et les mois passèrent, calmes et mornes, à peine colorés par les tendres pudeurs de Madeleine amoureuse, ou enrichie par ses larmes, car, timide et déférente, elle souhaitait tristement, sans oser l'essayer, captiver davantage le cœur d'Antoine Arnaud. Et puis, une sagesse douce et voilée succéda chez la jeune femme à ses premiers emportements. Son caractère la destinait aux soins silencieux, à la musique, à la rêverie. Elle eut une petite fille, et puis un an après, une autre petite fille. Elle les aima, comme elle aimait leur père. Et sa vie lui fut une douce histoire poétique et familière, dont les images quotidiennes distrayaient son cœur. Antoine Arnaud travaillait, sa grande réputation embarrassait sa vie. En quelques années, il connut toutes les agitations de la politique et du succès. Il témoignait à sa femme de la tendresse, sans qu'elle sût qu'il pouvait donner davantage. Lui-même oubliait qu'il avait été un jeune héros passionné et après de lourdes et laborieuses journées, le cœur là, mais non point soucieux, il goûtait sa paisible demeure et regardait jouer ses petites filles. Ce sont, pensait-il, les petites filles d'Antoine Arnaud. Deux garçons auraient mieux continué le sang du père, mais telles que les voilà, elles sont parfaites. Deux roses, issues de mon cœur. Croissez, songeait-il, mes enfants charmantes, un jour, dans votre sein, la vie encore s'incarnera, un petit être nouveau, élémentaire, rude comme un dieu. Ainsi, par vous, éternellement enfanté, moi-même fils de mes filles, j'irai, vivant et glorieux, au bout de l'humaine postérité. Souvent, dans la fraîcheur du matin, quittant sa table de travail, s'appuyant à la fenêtre et goûtant le vent délié, Antoine pensait « Je suis content ». Mais le contentement serre le cœur de ceux qui ont connu le plaisir. Au cours de ces 3 années, Antoine avait vu passer chez lui beaucoup de visages nouveaux qui tous l'avaient laissé indifférent, des hommes, des femmes, et aussi plusieurs fois sa belle-sœur, Élisabeth, dont il n'eût pu dire comment elle était, tant il n'avait de vision qu'intérieure et sur soi-même. Et elle, furtive, farouche, se réfugiait chez sa sœur, causait longuement et repartait en voyage. Gérard d'Ancre mourut, Madeleine le pleura, Antoine, que le mystère de la mort emplissait de ténèbres et de pitié, s'inclinait doucement vers sa femme. On vit venir aux funérailles Élisabeth. Elle sanglota passionnément sur ce père qu'elle respectait et qui ne l'avait point aimé. Le visage de la jeune fille était si arrêté, si contracté de douleur qu'il frappa, ému Antoine. Mais ce fut elle qui, le soir, au repas, comme plusieurs membres de la famille causaient à voix basse autour de la table, regarda en face Antoine Arnaud. Et voici que, au lieu de voir seulement les yeux de son beau-frère, elle vit son âme et tous les pays de son âme. Et soudain, éblouie, ardente et audacieuse, elle regarda jusqu'au fond de l'être Antoine, avec cette allégresse, cette volonté d'une vie qui dit à une autre vie « Vous êtes mon plaisir. » Plaisir, doux et triste nom du bonheur. Et comme Antoine aussi la regardait, brusquement blessée, elle baissa les yeux, vierge, en qui le regard, comme un trop coupable délice, entrait. Quelle lumière, quel vertige chante dans la tête d'Élisabeth, accorde harmonieusement tous ses gestes, cependant, qu'enivrée de douleur encore, elle ne sait si elle goûte sur l'âme d'Antoine Arnault la mort ou la vie. C'est la vie chantante et montante, telle que l'annonce sur la terre ce soir le nouveau printemps. Ô printemps, force du monde, qui ne voudrait louer Vénus naissant sur les eaux attiédies? Élisabeth, le lendemain, s'enfuit. Comment resterait-elle dans la maison de sa sœur quand elle a ainsi reconnu son amie? Ils se sont parlé à peine, mais à leur frisson, à leur silence, à leur clair regard voilé, ils savent que les voici pareils, identiques, mêlés. Que leur importe la séparation? Des deux bords de leur destin, ils sont venus l'un vers l'autre. La surprise et la force de leur rencontre ont fait se pénétrer à jamais le chaste amant et la chaste amante. Elle sait qu'il est lui. Lui sait qu'elle est elle. Un seul sang baigne ces deux vies. Chapitre 14. En s'enfuyant, Élisabeth a laissé à son amie les cahiers où depuis sa 15e année elle écrit. Et le soir, à sa table de travail, dans la pièce transfigurée où tout tremble et devient d'or, Antoine lit ses chants désolés, violentes plaintes vers le bonheur, torture, où se roule et se blesse une âme enveloppée d'un azur qu'elle déchire. Une fièvre orientale, la chaleur des pays de roc et de myrrhe, l'Andalouse Arabie ont allumé et consument ces pages. Ma jeunesse, mon désir et ma vie n'ont point eu cet éclat, pense Antoine. Élisabeth, songe-t-il, rose royale, fille de Don Louis de Bourbon, petite fille de Don Sanche, d'Alphonse le Magnanime, des Romancheros, et de Cervantes, princesse de Tolède et de Cordoue, reine des Maures, j'ai parcouru pour vous trouver l'univers et les beaux poèmes des hommes. J'ai partout cherché une voix qui répondit à ma voix. Pendant plus de 30 années, car mon deuil date du jour où je suis venue dans le monde, votre absence me fut aussi sensible que l'est aujourd'hui votre présence. Vous vivez, que m'importent à présent les jardins de Cachemire, que je rêvais de voir à l'heure où les engourdit le parfum trop fort des épineux ananas, que me font les barques de Venise dont les couteaux d'argent me fendaient le cœur, que me fait Lara ou le corsaire, ou cette belle sultane Missouf, qui dans un conte de Voltaire quelque soir me parut si voluptueuse. Mon ami, que le Rhin coule en noyant l'anneau de Wagner, que sur le tombeau de René la tempête recouvre à jamais les gémissements d'Atala, que le balcon de Vérone s'abîme et disparaisse avec l'alouette et l'échelle de soie, que de mes deux mains J'étouffe le cou de Colombe d'Antigone. Que m'importe si je puis avec vous dans un caveau secret vivre ou mourir. Et du fond de son âme, de loin dans le silence, Élisabeth répond à cette voix. Je chancelais, songe-t-elle, et depuis ma naissance, ne savais où poser mes pieds incertains. Aujourd'hui encore, je vais en tremblant vers le bonheur. Si souvent il m'a déçu. Ah, Antoine, dites-le-moi, êtes-vous mon ami véritable? Mon rêve n'emprunte-t-il point votre visage? J'ai si peur. S'il faut recommencer d'espérer en vain, je ne puis. Voici le printemps, ma joie fait dans l'azur des guirlandes de roses. Je lève les yeux vers un ciel infini, étourdi et doux comme l'enfance, quand on avait 7 ans, si vous vous rappelez. Mon cœur n'est point tout à fait innocent, Antoine. J'ai goûté à beaucoup de choses. Ayant toujours été triste et songeuse, j'ai abandonné mes mains, dans des mains qui tremblaient. J'ai connu, près de mes lèvres, des soupirs. J'ai recherché la vie et l'évanouissement. Mais, à peine touchée par leurs rêves, je m'éloignais de ces hommes. Échappée à ce factice amour, je redevenais candide. Le matin, dans les clairs ouragans de septembre, chastement enivrée des voix de la nature, je fus la sœur errante du naïf univers. Heure matinale, vous me rendîtes humble et fraternelle, quand le lièvre qui passe sur la plaine, comme une lyre, est empli de poésie, car son tendre museau froid, ses yeux bombés, sa terne douce fourrure, ses hautes oreilles, autant que mon cœur goûte et retienne le vent délicieux, le buisson vert émouvant, la lointaine ligne des collines, la mouche désorientée qui roule sur un rayon d'air. J'aime la vie, Antoine, je l'aime tristement, comme une sœur penchée sur son frère mort. Et en effet, Antoine, mes dieux sont morts. En vain, au travers du feuillage, je les cherche et les voudrais ranimer. Oh, mes dieux bleus et forts, qui faisiez vivant le tronc du bouleau, qui couliez dans la source claire, qui fûtes vous-même la forêt, si bien que la jeune fille, écartant les branches du saule, entrait dans vos bras passionnés. Quel écho d'amour demeure dans ces espaces où vos voix se sont tues. Amoureuse des ombres, dois-je lever les mains vers un azur désert? Oh, Pan, reviens dans le bois parfumé, que mon âme, qui depuis 3000 ans garde ton culte champêtre, voit luire cette nativité. Tous les poètes et mon cher Pan, tous les poètes et mon cher Pan, il est beaucoup de poètes, t'attendent dans les jardins. Ne les crois pas lorsqu'ils se pensent mystiques et convertis aux religions de Judée. S'ils disent que leur âme est altérée de mystère, c'est parce qu'ils te cherchent et qu'ils ne t'ont point trouvé. Ah, qu'un matin de Pâques, quand sur les villes chrétiennes les cloches danseront, vaine poupée de métal, la forêt enfin se ranime, que l'aulne entende revenir sa nymphe aux jambes mouillées, que les bergers s'élancent, que le bouc et la biche resplendissent au soleil, et que plus haut, quand les cloches d'argent sur les villes, tout le feuillage chante, Pan est ressuscité. Mais Élisabeth savait bien que cette exaltation n'habitait qu'une partie de son cœur. La lune romantique éclairait l'autre moitié. Lunes et mélancoliques soupirs, fluides appels des âmes, larmes, goût de l'éternité, cette sombre fête des nuits à chaque moment l'étreignait. Voici quelle ardeur la jeune fille apportait à son amie. Elle ne lui écrivait point, et lui n'écrivait pas. Tous deux tremblaient de se comprendre, de se rapprocher. S'il se peut, pensait Antoine, que ce bonheur passe loin de moi. Mais elle pensait, venez, venez. Sa tendresse pour sa sœur, qui d'abord l'avait oppressée, chaque jour se glissait à côté de son nouvel et innocent amour, ne le gênait plus et ne lui faisait plus obstacle. Vivre, pensait-elle, vivre, ne rien renoncer, ne rien refuser. Aussi, lorsque Antoine, mourant sans elle, abandonné de son âme et hanté de poésie, lui écrivit douloureusement « Revenez », elle quitta le secret jardin où depuis un mois elle rêvait, et par un matin de mai, avec une douce aisance, une allégresse victorieuse, elle rentra dans la maison de son amie. Ces deux cœurs se réunissaient comme se rejoint l'eau libre, enfin, qu'un obstacle divisait. Nulle différence ne leur enseignait l'éternel isolement. Plus ils avançaient dans le cœur l'un de l'autre par les douces conversations, plus l'écho de cristal des deux côtés résonnait. Ils habitèrent ensemble, dès qu'ils en causaient, les palais de l'Orient, les oasis d'un désert d'or, un temple de la Sicile. Leurs souhaits se confondaient. Chacun, avec l'autre, échangea sa fleur préférée. Élisabeth enseignait à Antoine la centaurée rose des champs, tandis qu'elle recevait de lui la tubéreuse au parfum de musc. Naissant amour, joyeux comme le départ, comme le cœur des oiseaux qui vont s'envoler vers l'Égypte. Leurs jours étincelaient, dorés pour Élisabeth et pour Antoine, vêtus d'une sombre lumière. « Mourir, disait-il, la vie est finie et j'entre dans votre éternité. » Et elle disait « Vivre ». Et son fleurissant regard s'étendait mystérieusement sur ce qu'elle appelait la vie et qui, pour elle, était aussi distinct, aussi proche que si elle avait dit « la rose ». Le grave amour de son ami s'épanchait en douce tristesse. « Élisabeth, disait-il, après que j'ai désiré le monde, la puissance, les plaisirs et finalement le néant, c'est vous qui m'êtes donnée chétive et périssable, mais telle que vous êtes, vous dépassez tant mon désir et mon rêve qu'il me faudrait, pour vous avoir, être mort près de vous, morte. » Mais Élisabeth riait, parce que c'était ainsi qu'elle exprimait le bonheur. Il l'aimait, il était près d'elle, il ne savait plus qu'il vivait. Son silence s'étendait comme un chemin d'argent, où les pas de la jeune fille, à chaque minute, s'assuraient. Jamais une vie avec tant d'obligeance et d'amour ne porta une autre vie. Il ne lui demandait rien, il n'avait plus ni faim ni soif, il lui donnait tous les noms des héroïnes qu'il avait le plus aimées. Dans son âme, il l'appelait tantôt Chimène et tantôt Zuleika. Il s'aimait. Ce qu'il voulait arrivait. Le destin se pliait sous leurs pas et les faisait passer. Dans la torture, dans la mort, ils n'eussent connu que la joie. Telle est la force de l'amour. Toute intelligence et toute science se posaient sur leur cœur. Ils savaient et n'oubliaient plus. Ils s'avançaient sur le beau tapis des jours, comme celui que la prophétie appelle le désiré des nations. Il ne lui disait pas « Je vous aime », car ce qu'il sentait pour elle était au-delà des mots et de la forme des pensées. Mais elle lui disait souvent qu'elle l'aimait, parce qu'elle était très jeune, pas assez pleine encore pour le silence. Il ne savait pas si elle était jolie, de taille moyenne ou grande, ou si les doux cheveux, les yeux courbés, la pâleur, faisaient l'enchantement du visage. Il ne savait rien, seulement que c'était une âme au centre de l'univers. Il possédait plus qu'on attend. Lui pensait « J'ai un empire ». Elle pensait « J'ai un empire ». Quand il disait « Voici le soir », c'était comme s'ils avaient, de leur propre volonté, amené le soir sur la terre. Comme Antoine ne souhaitait rien, il eût voulu qu'elle aussi fût une morte d'amour. Elle vivait. Ève, qui veut connaître son domaine, elle désira visiter le monde. Alors, Antoine Arnaud, Madeleine, Élisabeth et les deux petites filles, doucement unies, voyagèrent. Antoine n'abandonnait point son funèbre projet. « Que voulez-vous » demandait-il un matin clair dans Florence et le parfum des roses sur le chemin des collines. « Que c'est peu de choses, cela, auprès d'une tombe ardente, le plus de vie possible, mais... pour mourir. » Ils ne goûtèrent les paysages, les arômes et la musique qu'en les recevant l'un de l'autre. « Prenez ce que mes yeux ont vu, » lui disait Élisabeth. Quelle douce et forte vie ce fut! Quelle sécurité! Que de sereines aurores! Au beau spectacle du monde, Élisabeth disait « Je suis venue ». Avec une ingénue hauteur, elle offrait sa présence, l'ardeur infinie de son rêve aux lieux qui ont vu le Dante, qui ont vu Goethe et Michel-Ange, et Madeleine s'émerveillait d'une sœur auguste et pensive. Un soir, s'arrachant aux mollesses des lacs si voluptueux que Madeleine pressait son cœur, qu'Élisabeth, pensant sourire, pleurait, ils coururent vers la Toscane. Chapitre 15. Ils arrivèrent à Florence un jour où le jour est plus tendre qu'un clair visage oriental tatoué de beaux soleils bleus. Un de ces jours où la terre est comme un navire, avec des matelots qui chantent et de l'espoir tout autour d'eux, où le ciel glisse et se dissout et, puisant dans son bonheur, détache des portions d'azur et les fait flotter vers les hommes. Un de ces jours où la terre est comme un navire, avec des matelots qui chantent et de l'espoir tout autour d'eux, où le ciel glisse et se dissout et, puisant dans son bonheur, détache des portions d'azur et les fait flotter vers les hommes. Un jour, de roses écloses, les parfums jouaient sur l'air, comme des âmes réelles, comme des enfants divins. Élisabeth goûtait, mêlée, ce plaisir et cette déception que causent les choses nouvelles. Elle n'imaginait point ainsi la ronde perle toscane. Trop de perfection arrêtait l'élan de son âme. Ville parfaite, un peu sèche, qui respire, repliée sur elle-même, le fort opium de sa grandeur monastique. Peu à peu seulement, l'Arnaud, le Ponte Vecchio, l'air florentin, or San Michele, Santa Maria dei Fiori, les nuits parfumées par les iris des jardins enchantèrent Élisabeth. Elle parcourut les musées, les plus glorieux, le plus caché, Palais Pitti, où repose le juvénile hermaphrodite, si visiblement asservi, qui ne peut éviter les dieux et n'a de pudeur que son visage endormi, petit musée égyptien, où les divins scarabées sont des gouttes de siècle bleu, de tiède turquoise taillée. Les journées passaient, claires, ailées, pour ces flâneurs, pour ces rêveurs. Un matin, Antoine reçut une lettre timbrée de Florence même. Elle était de la comtesse Albi, après 8 ans. La comtesse demandait à voir Antoine, indiquait un rendez-vous chez elle. Le souvenir après l'oubli. « Je n'irai pas, » pensa Antoine. Et il répondit qu'il quittait Florence. Mais un second mot de Donna Marie, timide et pressant, affaiblit sa volonté et, irrité, il écrivit qu'il viendrait. Il ne pensait pas à elle, il était malheureux. Son amour pour Élisabeth dans cette ville s'envenimait. L'étrange ardeur de cette passion meurtrissait Antoine Arnaud. Certes, il ne pensait pas à avoir la jeune fille. Jamais il n'avait souhaité la blesser contre son cœur, ni quand, dans le parc d'un petit hôtel de Provence, au bruissement des platanes et d'un jet d'eau, leur apparut le sentiment du précaire et de la mort, ni ce soir trop pâle sur le lac de Bellagio, lorsque leurs larmes coulaient de l'un sur l'autre et les reliaient comme un long fleuve relie deux villes mystérieuses. Mais ici, la haute beauté, la douceur, les souvenirs qu'évoquait Donna Marie l'enfiévraient sensuellement. Ainsi qu'il l'avait promis, Antoine Arnaud, vers 6 heures du soir, arriva chez la comtesse Albi. Elle n'était pas encore dans l'obscur salon. Il attendit, tout enveloppé d'Élisabeth. Et puis, la comtesse ouvrit une porte, écarta un rideau, entra. Elle n'avait pas changé. À 37 ans, elle était comme autrefois. Son délicat orgueil ne se transformait point. Sa fierté et ses gestes retenaient sur elle sa jeunesse. Elle semble riante, indifférente, mais Antoine voit le trouble de son visage. Elle lui tend sa main petite et qu'il s'en froide. Elle le reçoit avec une vivacité brusque, avec étourderie. Elle dit « Il fait sombre ici, peut-être aurez-vous un peu froid. Comme ces jacinthes sentent fort. Il y a des gens à qui les jacinthes donnent mal à la tête, mais je crois surtout les jacinthes bleues. » Et puis elle s'assoit, se tait, regarde Antoine lentement, croise ses deux mains sur ses genoux, et comme une âme qui sent que le destin s'est accompli, elle dit lourdement, la tête penchée, le corps plié, se reposant. « Voilà. Vous allez bien ? Vous semblez bien ? Essaye Antoine à voix basse. Oh, je vais bien, dit-elle. Non. Elle a senti l'indifférence. Elle s'irrite et voudrait déjà se plaindre. Que de choses, soupire Antoine, que de choses depuis 8 années. Oui, dit-elle. Vous avez été heureuse ? Demande-t-il. Il voudrait qu'elle dise oui. Alors il se lèverait, il s'en irait, il reverrait Élisabeth. « Oh, » dit-elle, « on est toujours très malheureux. » Et puis elle se tut de nouveau et dans l'ombre elle réfléchissait, écartait des pensées, se levait, préparait un peu de thé. Alors Antoine l'observa, mince, pâle, les traits menus, douce, dans sa robe noire, fragile et nonchalante, toujours mademoiselle haïssée. Son beau regard un peu myope s'approchait des objets avec la précision délicate et pesante de ces papillons qui, semble-t-il, ne reconnaissent leurs fleurs qu'en s'y posant. Elle avait changé pourtant. À tout son air, on voyait que maintenant elle savait beaucoup de choses. Antoine la regardait. Dans ce salon, déjà, les voiles du crépuscule lui dissimulaient ce visage. Elle bougeait avec ses gestes d'autrefois. Quand l'alcool de la bouilloire lança une flamme trop haute, elle eut peur, et pressa ses mains contre ses tempes, jeta un cri léger. Antoine songeait. 8 années. Combien de fois, errant au milieu des jeunes hommes, pendant les nuits de Venise, n'avait-elle pas appelé l'amour? Combien de fois, couchée dans les barques noires, pendant ces voluptueuses nuits, avait-elle pleuré tendrement, les deux mains entassées sur son cœur, douce Vénus qui signale le lieu de son soupir? Combien avait-elle eu d'amis? Alors, il se souvint qu'elle avait à son bonheur, à son plaisir, servi. Que, sous sa robe gonflée, soyeuse, lâche et serrée, elle était un corps où il avait marqué sa joie. Il se souvint du temps où ils étaient courbés l'un sur l'autre, l'esprit collé contre l'esprit, assoupi de volupté par cette molle force lasse qui de deux vies fait une seule langueur, nombreuse, jointe, parfumée comme les molécules de la rose. Il se souvint qu'elle avait été lui-même, comme nos yeux sont dans nos visages, qu'il avait dévêtu cette reine sans qu'il y eût d'indélicatesse, qu'il l'avait tutoyée sans qu'il y eût d'offense, qu'il eût pu la frapper sans qu'il y eût de honte, suprême impunité de l'amour. La comtesse Albi se retourna dans l'ombre. Elle était en face d'Antoine. « Je voudrais mourir, » dit-elle. Cet accent émut Antoine. Il se rapprocha, et comme il se taisait, confiante, doucement, peu à peu, assise près de lui, elle raconta ce qu'avait été sa vie. Elle racontait scrupuleusement, enchaînant les événements, cherchant à ne point placer un fait avant un autre fait. Elle donnait là toute sa conscience, sa soumission retrouvée, et puis, levant les yeux sur lui, tandis qu'une lampe allumée, voilée de rouge, les éclairait bizarrement, « Je ne vous ai jamais oublié, » dit-elle. Ils furent gênés. Elle poursuivit. « On vit, les jours passent, on accepte ce qui est. C'est difficile la révolte, mais je ne vous oubliais pas. » Après des silences où chaque fois son courage se fortifiait, « Oui, » dit-elle, « je ne vous oubliais pas. Il n'y a qu'un jour, un péché, ce fut vous. Toutes les résistances, toute la peur et la surprise, elles sont brisées la première fois. C'était vous. On n'a pas d'autre amant. Les autres, c'est parce que vous nous avez quittés, parce qu'on ne peut plus vivre seul, ni marcher, ni rêver seul. Et chaque fois, on espère un peu de bonheur, on recommence, on est content. Le dernier ami que j'avais était jaloux et violent, mais quelquefois, il me disait « Je vous aime de tout mon cœur. » Cela dure 1 an, 18 mois, et puis un jour. On ne sait pas pourquoi quelque chose survient qu'on ne peut pas expliquer, et ils s'en vont fâchés. Tout ce qu'on fait alors a... Tout ce que l'on fait alors a... Tout ce que l'on fait pour les retenir. Vraiment ? Murmura Antoine, enjoué, pourtant oppressé. Non qu'il fût jaloux maintenant, mais il se souvenait qu'elle lui avait appartenu. Donna Marie ne répondit point à cette offense. Elle songeait, accablée de souvenirs. Et Antoine, plus doucement, regardait ce visage qui semblait avoir absorbé le malheur comme une leçon qu'on a bien entendue. « Oui, soupira-t-elle, je ne vous oubliais pas. On n'oublie pas. Vous étiez ma jeunesse, mon commencement. » Elle avançait ses mains vers lui, comme on tend son cœur, comme on donne son amitié. L'ombre et la lampe rouge se partageaient la pièce. « C'est vous, » disait-elle à voix basse, « c'est vous qui m'avez fait connaître la douleur, le bonheur, le plaisir. » Sa voix n'avait pas de gêne, coulait, simple, chaude et brisée. « Oui, » disait-elle, « les autres, je leur apprenais à vous ressembler. En riant, en jouant, en prenant leurs mains, en les courbant sur mon visage lentement, de jour en jour, peu à peu, je leur apprenais à vous ressembler. Ils me rendaient nos voluptés. Ah, comme j'ai cherché cela. Ils n'ont pas su comme j'ai cherché cela. » Antoine se taisait, et il évitait de rencontrer les mains que Donna Marie lui tendait. Mais elle laissait, sans colère, glisser ses mains et poursuivait. « Avant vous, vous le savez, j'étais timide, innocente, mais tu m'as pris tout cela. Après toi, mes gestes n'ont plus eu peur. Les nuits d'Italie sont terribles, mon chéri, elles viennent sur nous et nous étouffent et tout le cœur est comme un jardin de jasmin. Alors la volupté, les caresses ne semblent pas un péché, elles semblent de beaux anges du soir. » Qui passe sur le ciel de Florence, de beaux anges, l'ange du bienheureux Angelico, qui court si vite, tu le sais, dans la fresque de Saint-Marc, qui vient comme un jeune homme si pressé, si ardent, et qui dit « Je vous salue, Marie. » Antoine se taisait encore, Donna Marie s'arrêta, puis, d'une voix plus sèche, d'une voix plus nette, « Et vous ? » demanda-t-elle. Les premières paroles qu'il voulut prononcer demeurèrent incertaines dans la gorge d'Antoine. Ensuite, il dit « Moi, je suis mariée maintenant, depuis 4 ans déjà. »« Oui, » fit-elle résignée sans trop souffrir. Ce mariage, c'était la sagesse, la fin dans la vie d'Antoine, elle acceptait cela. Elle sentait qu'elle ne le reverrait plus. Alors elle reprit encore comme une enfant chantonne, parle sans penser, se berce et s'endort. « Mourir. Je voudrais mourir. Le temps est passé pour moi. Le temps est passé. » Dans sa robe noire, elle semblait une veuve, qui ne peut jamais être tout à fait une veuve, à cause des cheveux blonds, du plaisir des cheveux blonds. Et elle était si faible et si douce, si tendre, éclairée par l'ardente lumière rouge, si désarmée, qu'Antoine se rapprochait d'elle, l'écoutait, la plaignait, la touchait. « Mourir, » suppliait-elle encore, « mourir, mourir. » Et voici qu'elle s'allonge, qu'elle se glisse sur Antoine, que son regard est sournois, et comme une âme qui rampe vers sa proie, qu'elle-même est tout entière, une chaude panthère, couchée, soulevée d'une voix que la hardiesse et la défaillance entrecoupent. « Le plaisir, » dit-elle, « le plaisir, mon chéri, donne beaucoup de courage pour mourir. » Antoine veut s'éloigner, la repousser, partir, mais elle le garde. Elle s'attache à lui avec les grands mouvements de l'être, comme on se bat, comme on se chauffe, comme on mange. Violente et dressée, d'une voix désordonnée, ainsi qu'on éparpille des mots et son sang, elle lui dit « Vous êtes mon jardin refleuri, ma maison retrouvée, ma volupté vivante. Vous êtes ma tristesse et ma bouche. Je vous ai, ah, je vous ai, non pour ma vie, non pour toujours, mais pour une heure, mais pour une nuit. Cela suffit, une nuit, pour que je saccage mon rêve. Une nuit. » Pour me gorger, pour me lasser de vous, pour que meure en moi jusqu'à la racine de ce désir une nuit, pour te voir comme tu es, faible, pâli, vieilli. Ô mon amour, ô Dieu terrible de mon souvenir, ah, pour une nuit, que je te goûte encore, que délivré, délivré enfin, je puisse dire J'ai revu Antoine Arnauld, il n'est plus comme autrefois. Sainte Marie, je vous adore et je vous loue. Il n'est plus comme autrefois. » Elle le frappait et elle se frappait elle-même exténuée. Et Antoine ne savait pas s'il voulait dédaigner ou écraser ce délire. Mais comme une âme s'élance et expire sur une autre âme, elle reprenait vindicative. 8 années, j'ai gardé le souvenir de ta jeunesse. Ta jeunesse nonchalante et forte, lassée, cruelle, délicieuse, comme sont dans les histoires anciennes les empereurs. 8 années, je me suis souvenu. Que faisais-tu? Et j'étais là. Nul ne pouvait me rendre les tortures de ton étrange amour. Je les voulais cependant. J'étais des nerfs qui, dénoués de toi, mouraient. Quel jeu pouvait distraire ta malade passionnée? Que n'as-tu perverti en moi? Plus rien de pur dans l'univers. Les yeux éclatants et sourds comme deux flammes que voile la main, et tout l'être pareil à un feu subtil qui pénètre, elle reprenait, pliant et chauffant sa voix. Tu te rappelles les nuits sur la place Saint-Marc, les nuits de juillet et d'août, de telles chaudes nuits, quand nous étions tous ensemble auprès de la musique que l'on servait des granitis, et que tu pâlissais de volupté parce que ma soif et ma faim, le sorbet rouge, le biscuit, le fruit que je portais à mes lèvres, tu les eusses voulu. Jusque dans mon cœur, manger. Tu te rappelles? Ah, n'est-ce pas, ce bal au palais Contarini, lorsque, comme le roi passé, que je souriais, tu me froissas le poignet pour que je me souvinsse de toi. Tu aimais, mon chéri, que je fusse un objet de douleur, et tu aimais aussi tes propres larmes. Ah, que de douleur sur moi! Maintenant, que de douleur, que de meurtrissure, que d'injures, tant de mensonges, tant de perfidies, tant de lâchetés, tant de choses portées, tant de choses supportées, tout cela sur moi, qui fut ta reine craintive, la perle et la colombe dont tu étais jaloux. Et, renversé par un trop fort sanglot, « Ô mon amour, s'écria-t-elle, cette offense !» Chapitre 16. Quelle force eut Antoine de fuir, d'écarter ce tragique fantôme, d'abandonner ce râle qui, sans doute, lui, parti, s'achevait humblement, comme s'achève la douleur des femmes. Douleur d'amour et d'orgueil, toute leur douleur humaine. Douleur des femmes sur des coussins bouleversés, entre les bras des suivantes, dans l'odeur des sels, de l'éther, de la stupeur et de la sueur, dans la pauvre maladie. Lui, dehors, il s'éloignait, il s'en allait, il courait vers Élisabeth. Celle-là, qu'elle resta pure, innocente, jusqu'au moment de sa mort, de sa bienheureuse mort. Il trouva Élisabeth qui lisait seule dans le petit salon. Madeleine s'étant, après le dîner, retirée chez elle, endormie. Dans l'obscurité du soir, au travers des fenêtres, on entendait les roulements, le tintement de Florence, sonore la nuit, comme un cristal toujours frappé. « Que lisez-vous, Élisabeth ? » s'exclama Antoine Arnauld, car aucune de ses paroles, aucun de ses sentiments ce soir, ne pouvait avoir de paix. Et la jeune fille se troublait, car, ô surprise, elle lisait en effet une page de volupté qui venait de briser son corps. Dans un brûlant roman italien, une page de volupté, où triomphe la mort par l'inextinguible désir. Et comme tous les deux, sans qu'ils l'eussent su, séparément, étaient prêts au même délire, au même terrible vouloir épouvanté, Ils furent debout l'un près de l'autre, se fuyant, s'évitant, pourtant immobiles, mêlés comme les mots dans l'ode, comme le son dans l'accord. « Allez-vous-en, ma bien-aimée, » s'écriait Antoine ébloui, « que je ne vous touche pas et que nul ne vous touche à... Demeurez inemployée, beauté vierge que je ne puis épuiser, amour du milieu de ma vie, ô bonheur, venu trop tard, éloignez-vous de moi, sagesse de Jupiter, Jupiter que Goethe à chaque aurore adorait, retenez-moi de ma folie, que je ne touche pas à cet enfant, la douleur de Faust, la douleur de Faust, elle est au centre de toutes les vies, celui qui, mille fois à enlacer le corps d'Hélène, il crie « Encore, encore, toujours, encore ma jeunesse, encore ma force, encore la beauté. » C'est pourquoi je refuse, Élisabeth. Allez-vous-en, fuyez-moi, ma sœur, que j'attire sur mon cœur. Craignez-moi, perle, dont la dense lumière m'écrase. Ce que je veux, hélas, moi qui veux te servir, c'est enchaîner, c'est attrister ton doux empire. La vie plus forte que l'amour, ma vie plus forte que l'amour. Ce que je veux, c'est te dire, tu es tout, mais je suis le maître de tout. Fuis donc, ne connais du désir que ces songes voluptueux qui, la nuit, dans leur lit étroit font frissonner les vierges jusqu'aux épaules. Tu es jeune, tu es trop jeune. Si je te dévoile le chemin secret, d'autres courront sur ce divin chemin. Je les vois, ils sont une foule. Ô bien-aimé, soupirait-il, le visage contracté jusqu'à mourir. Que ce soit moi qui conduise tes futurs amants, tes heureux, tes jeunes amants. Il y a sur la terre des adolescents qui seront beaux, qui, du fond de leur destin, viennent vers toi. La beauté, Élisabeth, la beauté. Ils seront beaux, et tu trembleras sur eux, tu t'attacheras sur eux comme une plante avec des racines pour goûter, pour boire, pour respirer la beauté. Choisis plutôt de mourir, suppliait-il. Sois une morte, inviolée, une fleur lisse où nul plaisir n'a rampé. Il faut avoir honte du plaisir. Ô reine, le plaisir, tes jeunes hommes montent et descend sur l'orgueil comme une eau qui s'enfonce et ravine. Tu ne serais plus toi-même, ô unique, tu serais celui-là et celui-là et le souvenir de celui-là. Mais la jeune fille, inclinée, chancelante, rose qui a reçu tout l'orage, d'une voix ivre et basse disait « Qu'importe, aimez-moi, j'ai bu d'un vin trop fort, aimez-moi, voici le jour du destin, aimez-moi, répétait-elle, comme quand le silence et l'angoisse des oiseaux dans les nuits soupirent de la fraîcheur, qu'un vent s'éveille, qu'un nuage s'ouvre, de la fraîcheur. » Antoine ne l'écouta pas, ne l'entendit pas. Il ne délia pas cette prisonnière. Ce fut leur nuit violente. Chacun, enfermé chez soi, se sentait assez de force pour détruire et refaire le monde. Le lendemain, tous deux se taisaient. « Oui, soupirait Antoine quelques jours plus tard. Vous ne pouvez savoir, Élisabeth, quelle noire poésie hante mon cœur. La belle tasse d'or où j'ai bu, où vous buvez sans ménagement la vie, je la vois maintenant graduée. Encore quelques centimètres du divin breuvage, encore un peu de ce miel, et ce sera pour moi fini. Hélas, mon ami, fini, que nous sommes différents encore. Sur les tombes du sang miniato, où vous couriez comme sur d'insensibles dalles, je me penchais, lucide, attentif, et je pensais « Mort, je suis maintenant plus proche de vous que de ceux qui vont naître. Oh, mort familier, oh, ma famille indistincte, j'entends quel travail vous défait. Encore quelques années, je viens. » Mon ami, continuait doucement Antoine, car il n'avait pour la jeune fille que de la gratitude. Vos petites mains, en serrant la mienne, ne peuvent m'entraîner dans ces ondes lumineuses où ma chère âme vous brillez. Vous êtes cruelle et divine parce que vous avez 20 ans. Vous ne pouvez rien voir autrement que par vos yeux enivrés. Toutes les créatures, moi, la douleur et le mendiant, si vous le rencontrez sur le chemin, vous apparaissent toujours légers, joyeux, vivants, mêlés à votre cher cosmos. Mais moi, je sais maintenant le sens des mots profonds. Je sais ce que veut dire le passé, le déclin et la fin, ce que veut dire l'ombre froide. Je sais les instants de la vie où, fatigué, s'asseyant entre son destin et la mort, également dégoûté, l'homme, avec stupeur, contemple son âme inerte et noire. Mais, chaque jour, chez l'étrange fille, la folie de vivre augmentait. Antoine, la vie, qui s'émouvait d'une armée qui passe et chante, et où tous les hommes ont 20 ans. Il la vit pleurer pour des danses lascives et sauvages dans un cabaret oriental où la salle grossière tremble et se pâme de désir. Il la vit jalouse d'une jeune femme étrangère qu'un amant furieux avait tuée dans la forêt. Lorsqu'un soir, il lui fit la confidence de sa naissance voilée, « Ainsi ? » s'écria-t-elle haletante. « C'est cela ! C'est donc cela ! » Et les mains contre les tempes, elle s'émerveillait d'être une fleur de grenade née sur la tige royale. « C'est donc cela ! » répétait-elle victorieuse en regardant en elle-même son ardeur, son obstination, sa violence, son impérieuse fierté. Mais ce sang précieux n'expliquait point suffisamment à Antoine le miracle de son amie. Il la voyait plus diverse, plus belle encore que toute l'Espagne, dont il savait l'ocre torride et la fraîcheur, le goût de benjoin et de myrrhe, les matins roses de rosée. Elle-même, quand les forces de la nature l'enivraient d'un trop doux vertige, disait « Je ne sais d'où je viens, où je vais. Parfois, au centre des jardins, j'entends chanter et glisser les veines universelles. Ce qui germe et ce qui meurt fait à mon oreille un bruit familier. Cybèle et Proserpine, quand elles écoutaient la terre, ont dû surprendre ce bruit. » Ainsi, Antoine la considérait comme la déesse féconde, et elle, orgueilleuse, penchait sur elle-même son culte naïf. Tous deux tremblaient de fièvre divine. Mais un tel excès épuisait la jeune fille. Une maigreur de feu, semblait-il, un farouche étonnement du regard, et ce sanglot ininterrompu qui, de son cœur, s'élançait dans le cœur d'Antoine Arnaud, tarissait sa vie délicate. Bientôt, l'atmosphère des jours lui devint inhabitable. Lorsqu'ils furent de retour à Paris, tout l'ordinaire les étonnait, les conversations et les actes. « Ah !» pensait Élisabeth en s'isolant des 20 propos de leurs amis. « Au-dessus ! Au-dessus ! Toujours au-dessus de tout cela !» Antoine Arnaud ne savait ce qu'elle voulait. Elle brûlait et pâlissait. Allait-elle défaillir? Que souhaitait-elle encore? mais lui-même, instinctivement, du fond de son amour, souhaitait cela. Qu'elle mourût. La passion a de ses douceurs. Qu'elle mourût. Cette petite fille qui était là pour que l'univers eût sa nécessité, pour que les plus hautes montagnes songent. Que faisions-nous? Mais, un instant, nous nous sommes mirés dans son cœur. Martin le nôtre, attentif, exigea pour elle du repos. Alors, ils quittèrent Paris, ils s'établirent, Antoine, Madeleine, Élisabeth, les petites filles, dans une maison silencieuse, pressée de roses sur les beaux coteaux de la Seine. Tout de suite, dans cette solitude, et ainsi qu'Antoine le désirait, l'âme de son ami se replia, vint s'appuyer contre lui. Ce fut une vie champêtre. À l'aube, une voix d'oiseau s'élevait, et puis une autre dans le pain léger, et bientôt cela faisait, au travers des persiennes baissées, tout un bouquet de chants d'oiseaux, un bouquet rond, un bouquet large, un bouquet criant et vivant, inégal, haut et bas, tournoyant et vif dans l'aurore. Petits oiseaux qui vous contredites le matin sur les branches des arbres, qui mangez, qui buvez, qui avez tout notre cœur, c'est vous la plus pure poésie. Que l'on vous voit vivre et l'esprit s'apaise. Âme montante, peuple entraîné vers le fait, aile, oiseau, noblesse de l'air, dont le pli brillant est toujours renouvelé de ton cou lisse et sans repos, ô n'importe lequel des petits oiseaux divins, je mets mon rêve. Tes deux ailes pour mon rêve, vole, ainsi, vers les lignes blanches de l'infini, jusqu'au secret, jusqu'au silence, jusqu'au vide, où le vierge azur meurt de pureté. Élisabeth, inlassablement, au centre de ce jardin, rêvait. Antoine la voyait, si langoureuse, si méditative, si hallucinée que parfois au crépuscule, près du massif jaune et violet que la fin de l'été brûlait, il lui disait en souriant, « Bien-aimée, quel bonheur attends-tu donc de la mélancolie ?» Et, enivrée, « Ah, répondait-elle, de mourir ?» Mourir, mourir. Ainsi, elle voulait mourir. Il l'avait donc conquise comme il le souhaitait, pour le lit profond et sans bord. Il l'avait donc si bien liée, cette rebelle, cette nomade aux pieds d'argent, cette danseuse de grenades, cette mauresque, cette Hélène, dont l'argile étincelait, dont les lèvres semblaient salées du sel originel du monde. Si bien liée qu'à présent un jardin occidental lui suffisait. Avec le cœur d'Antoine Arnauld, avec le plaisir, avec la folie de mourir. De quel perfide poison l'irritable chasteté ne troublait-elle point leur sens quand, pour leur imagination, l'humble jardin fut un nombreux univers. Selon les heures du jour, ils le virent molle, embrasé, le pin svelte et délié fut les coteaux de Gênes, le lent jet d'eau leur fut l'Espagne, et quand au loin sur la Seine un noir remorqueur sifflait, ils se rappelaient en soupirant les paquebots du lac de Côme, dont le sourd et rauque appel, pendant les lisses journées, déplaçait et emmêlait le doux azur étagé. Grisée par la chaleur du soir, sous le mystère des arbres, chaque son les pénétrait. « Ah !» disait Élisabeth, « ces ténèbres opaques, odorantes, ces torpeurs, ces scintillements, ces cris, et mon cœur noir, et ton cœur noir, n'est-ce pas, mon bien-aimé, le délire des nuits cingalaises ?» L'hiver passa, enveloppé de cette flamme, Le printemps revint. Il naissait sur toute la terre, petit, léger, vert et droit. On entendait dans les bois un cri d'oiseau incessant, cri de printemps aigre, clair. Il semblait qu'il eût, cet oiseau, dans son gosier irrité, une petite feuille nouvelle du délicieux térébinthe. Il jetait son cri sans arrêt, comme pour encourager dans le sol les faibles fleurs enfermées. Ce cri dit à la jacinthe, à la jonquille, à la tulipe. Encore un choc, un effort. Percez mieux la terre dure, élancez-vous, bientôt c'est l'air et le ciel, venez, je suis votre oiseau. Antoine était satisfait, il travaillait, il goûtait l'ardente pâleur de la jeune fille. Les jeunes gens qui étaient ses disciples le visitaient, se tenaient debout près de lui, l'écoutaient. Il estimait peu leur ferveur, mais quelquefois il se plaisait dans la société d'André Charme, son favori, un jeune homme oisif, élégant, de dédaigneuse et fine culture. Élisabeth fuyait ces étrangers et elle s'effraya le soir où Antoine Arnaud, voyant s'obscurcir un nuage de mai, retint André à dîner. Les jeunes gens, ainsi rapprochés, se regardaient à peine, s'évitaient de loin, causaient timidement, tandis qu'Antoine, inquiet, s'épouvantait d'entendre Élisabeth adresser la parole au jeune homme et que soudain, à les voir ensemble, plus jaloux qu'un père délaissé, il haïssait leur jeunesse. En cet instant, la jeune fille lui semble nouvelle. Il imagine mille frissons sur son innocent visage. Voudra-t-elle plaire à ce garçon léger, dans ce printemps humide et doux, ce soir? Ou percevra-t-elle avec un peu de reconnaissance seulement le trouble de l'adolescent, trouble visible sur ce beau visage, dans ses mains claires et fraîches, dans cette respiration pressée, et la musicale voix lorsqu'il demanda à la jeune fille « Vous connaissez l'Italie ?» et que tous deux, alors, en parlèrent avec tant de regards et de lumière qu'Antoine Arnaud sentait s'abolir tous les plaisirs qu'il avait eus, lui aussi, au bord des rives chantantes. La soirée fut courte. De bonne heure, André se retira. Sur l'invitation de Madeleine, Élisabeth accompagna au travers du jardin le jeune homme, et Antoine, des yeux, la suivait. Son cœur se broyait en lui. « Ah, pensait-il, comme mon amie est vivante, je ne puis pas arrêter sa douce vie. Orage des nuits de mai, senteur des verts orangés, soir du monde, banjo et sitar, douceur de toutes les contrées, vous me prendrez, mon amie, elle a devant elle la vie. Hélas, serai-je longtemps son bonheur? Je ne puis plus lui donner ce que les femmes préfèrent. Le commencement. Je puis lui donner le temps, l'infinie croissance d'un inépuisable amour. Je ne puis plus lui donner ce qu'elle préfère, la surprise, l'attente, le commencement, terres inconnues que l'on découvre, belles Amériques du désir. Par la fenêtre, Antoine voyait Élisabeth qui, solitaire, ayant reconduit le jeune homme, faisait lentement le tour de la molle pelouse. Elle s'arrêtait, haletait et reprenait sa démarche moelleuse, les mains tendues vers le fin égouttement du feuillage. Lorsqu'elle revint dans le salon, d'un geste pieux et lourd, de toute la douceur de son rêve et de sa douleur, Antoine Arnaud l'attira. Elle respirait rapidement, chargée des arômes de la nuit. Lui la pressait contre son cœur. Comme elle bougeait, laissant glisser l'écharpe nouée autour de son visage, il osa la regarder. Il la vit, ah, toute pâmée. Un de ses yeux était clair, l'autre foncé. Son nez se crispait, s'ouvrait ainsi qu'un étrange sourire, et sa bouche semblait molle, desserrée comme une rose sensuelle où l'amour a passé sa main. « Hélas, qu'as-tu ? » sanglota-t-il. Et elle, montrant derrière elle la nuit, les arbres, le silence blanc, l'immense gonflement du monde. Ah, s'écria-t-elle, haletante. Nymphe qui a vu son dieu. C'est l'été? 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 D'un geste de haine ardente, Antoine l'écarte, la repousse. Chancelante, elle vient s'appuyer contre le mur, et comme innocente, les bras tendus vers son amie, implorante, effrayée, elle le regarde. « Je ne te retiens pas de force, lui dit-il. » Quoique Élisabeth ne parlât jamais d'André Charme et qu'elle ne fût pas intéressée de la visite qu'il leur fit une fois et puis une autre fois, Antoine se torturait par le souvenir du jeune homme. Si puéril que sa crainte à lui-même sembla, il ne pouvait ôter de son cœur l'angoisse qu'il avait eue. Il ne s'était jamais représenté les traits de son ami en profil sur un autre visage. Et maintenant l'image était si vive et si perfide, et s'exagérait si âprement qu'Antoine songeait. C'est l'évidence, André Charme, ou un autre, qu'importe. Voici son compagnon. C'est à ce printemps que va son âme. Et, à la pensée que la vie d'Élisabeth n'était point close, qu'il y avait pour elle un long avenir, Antoine sentait son cœur se resserrer de dégoût et de douleur. Que pouvait-il contre ce qui dort d'impur dans le sang et dans le rêve des femmes, contre leur futur désir? Si lasse qu'elles semblent, chaque fois qu'elles aiment, elles renaissent. Le long de la vie, elles aiment. Elle aimera, songe Antoine Arnauld, avec ses grâces douces, cet orgueil, ses élans, ses soumissions, ses révoltes que j'ai surpris dans ses yeux. Elle aimera ainsi jusqu'au jour où c'est elle qui sera l'aînée, où c'est elle qui tiendra les mains de l'autre, elle qui sera courageuse et grave, elle qui rêvera et qui donnera. Debout près du jeune homme alangui, le couvrant de sa belle ombre amoureuse, elle dira « Tu es la vie, ô mon amour, tu es la jeunesse et l'azur, le parfum des vertes amandes. » Mais voici qu'un feu l'exalte, que l'antique puissance d'Eros l'étreint, le vainc, le convainc. Hélas, ne le sait-il pas, lui-même? Qu'honore-t-il? Qu'a-t-il jamais honoré qui ne soit le désir? Désir, vertige profond, vacillement des regards, divin strabisme de l'âme, ne lui a-t-il pas dédié tous ses livres? N'honorait-il pas la seule puissance du monde, le désir, quand, dans le génie, ne reconnaissant que la fièvre, il s'écriait « Hugo, Shakespeare, inépuisables et magnifiques, Velasquez, héros du désir, et vous, Richard Wagner, qui avez composé votre suprême Tristan au milieu de telles ardeurs, d'un tel triomphe physique, qu'au thème de la mort d'Iseux, nulle femme ne peut s'y tromper, et par vous reçoit son amant dans son cœur. » Alors, la jeunesse d'André l'attendrissait. Il eût voulu dire « Vous commencez la vie. Vous ne savez point encore comme elle est belle, ô mon ami. J'ai achevé ma course et je meurs. Voici le flambeau. » Il se rappelait avec douceur la timidité du jeune homme, le cours délicieux et contracté du sang, l'intensité naïve, l'éternel charme de Daphnis. Et puis aussi il riait de son inquiétude, de son ton paternel, car lui-même n'avait que 39 ans. C'est la jeunesse encore, la force, le plaisir, mais c'est déjà le temps compté, les beaux jours, les belles nuits limitées et l'attente affreuse de l'heure où il faudra que l'on pense « Je n'ai plus toute ma royauté ». Au moment de minuit, quand la tiède maison dormait et que selon son habitude Antoine s'accoudait à la fenêtre et dans la libre nuit contemplait la lune qui voyage, déjà il ne disait plus à l'univers assoupi comme il faisait à 20 ans « Levez-vous, aurore désirée ». L'aurore, les lendemains, il n'y pouvait songer. Il pleurait. Sa vanité le faisait souffrir comme des eaux rompues qui, dans la mollesse de la chair, pénètrent. Lassé de la gloire, lassé de l'orgueil, il méditait sur l'amour. Les mains jointes, soumis comme devant un dieu, il songeait que, moins encore que le soleil et la mort, l'amour ne peut se regarder fixement. Il est la splendeur éternelle. On ne peut l'exprimer. C'est le miracle qui bouge. Des humbles minutes du jour, il fait d'éclatantes fusées. Il est soudain furtif, immense, parfait, secret et théâtral. Ainsi songeait Antoine Arnauld. Alors celui qui avait tant lutté, qui, dans la nuit de Florence, avait refusé son bonheur, qui était pur et fier de lui, qui servait bien sa raison, courut vers la volupté. Secrètement, furtivement, pendant les journées d'été, quand l'azur est pareil à un diamant bleu aveuglé de scintillements, quand, au travers des persiennes baissées, mobiles comme un lourd éventail de bois, les douces ondes du soleil entrent dans les chambres, se suspendent, se balancent, chauffent, ainsi que des espaliers les frivoles, naïves tentures, dans ces chambres parées de divine tristesse, Antoine Arnauld pressait, étreignait son amie. Elle appuyait contre lui son front charmant, pliait sa tête sous les caresses de ses mains. Le silence régnait. Une à une, glissant des cheveux de la jeune fille les épingles d'écailles claires sur le luisant parquet, faisait un bruit sec, un bond, une courte lueur. Je vais essayer de lire mieux cette phrase, je l'ai pas trop bien lue. Je reprends. Une à une, glissant des cheveux de la jeune fille, les épingles d'écailles claires, sur le luisant parquet, faisaient un bruit sec, un bond, une courte lueur. Dans sa douleur, dans sa stupeur, sa fatigue profonde, Élisabeth percevait que le violent désir des hommes est le mystère et la vie, et la raison de la vie. Quoique torturée par la pensée de sa sœur et subissant ce secret instinct, cette loi farouche qui veut que l'être parfait demeure solitaire, elle retenait en s'enivrant son ami. Aux instants du crépuscule, le jour qui descend glissait sur les meubles bas, sur le parquet, ses ailes abattues, sa blanche palpitation. L'étonnante immobilité de l'heure rêvait comme une cloche silencieuse. Par les fenêtres entraient d'étranges parfums qu'on eût voulu repousser car ils augmentaient la langueur. Foule invisible des parfums d'été qui vous réunissaient sur une âme et prenaient tout son terrain. Au loin, sur la pelouse, en dehors du jardin, Madeleine, avec des gestes de repos, était assise dans les longues herbes et les deux petites filles jouaient. De la fenêtre de la chambre, Antoine les voyait, surveillait leur retour. Lorsqu'Antoine et Élisabeth se taisaient, ayant échangé leur cœur, il leur semblait non que quelque chose du désir humain s'acheva, mais qu'un délire commença dont le secret et la science ne sont point trouvés, et il frissonnait d'au-delà. Quelquefois aussi, Élisabeth éprouvait la solitude, la grande mélancolie, l'impatience des jeunes êtres qui, brusquement désintéressés du présent, prévoient pour leur longue vie d'autres formes de l'aventure et du bonheur. Et d'autres fois, tous deux se serraient l'un contre l'autre, mystérieusement affligés, réunis pour goûter la brève vie et l'éternelle mort, humble, inquiet, comme on voit dans la légende le premier homme et la première femme sous le nuage qui porte Dieu. Antoine arrachait Élisabeth à ses émotions de l'âme. Sentez-vous, lui demandait-il, sentez-vous que toute la vie, toute la force, tout le rêve aboutissent à la volupté? Il n'est point de spectacle qui n'y conduise. Rumeurs, émotions des foules, hâte, départ, nuit noire avec des feux rouges, panique, tapage et cris dans les gares, ports étincelants où tous les bateaux se balancent et rêvent à de lointaines Guinées, vous recomposez le plaisir. Penché avidement sur son ami, n'est-ce pas? Tu sens, lui disait-il doucement, tu sens, au seul mot de volupté, ton âme fondre aux plus douces places de ton rêve comme un ruisseau qui court vers le printemps. Et la jeune fille, défaillante, ne répondait que par ses yeux fermés. Oh, désir, surchargé de désir! Goûtait-elle bien, de tout son esprit renversé, ce qu'il y a d'équivoque, de discord, de strident, ce qu'il y a de double et de triple, de pareil à la tierce, de pareil à l'arpège, dans le désir? Mais alors, Antoine la repoussait. « Ah, disait-il, ne demeure point ainsi, que je ne vois plus ta fièvre, ta langueur, ton divin visage. Ce n'est pas moi que tu aimes, ce n'est pas moi seulement. » Et comme offensée dans sa passion, dans sa complaisance même, elle sanglotait sur le ton du plus lourd reproche. « Oh, mon amour !»« Ah !» interrompait Antoine, « tais-toi !» Un homme passe, il te regarde, il t'appelle. De ses mains, il surprend tes douces jambes, c'est cela l'amour. Les doigts appuyés sur son cœur, elle allait s'évanouir. Mais lui la regardait encore avec colère, et du fond de son âme, il pensait « C'est votre faute, voyez où je suis, je vous demande de me comprendre, de considérer ma douleur, de goûter un peu à ce fiel. » Puis il se jetait sur ce tremblant visage, couvrait les yeux, les cheveux de tant d'aveux, de secrets, de chuchotements, de tant d'ardeur et de fureur qu'ensuite la jeune fille lui semblait impure. Et le soir, il eût souhaité crier à ses petites filles venues jouer auprès d'elle, ne la touchez pas. Chapitre 17. Une fois que, dans un fauteuil, Élisabeth s'était endormie, brûlante et fatiguée, elle apparut à Antoine si faible, si menacée, que, le cœur haletant, le lendemain, de bonne heure, il courut chercher Martin le Nôtre. Mais lorsque Martin fut là et qu'Antoine vit Élisabeth du fond de son tiède lit, tendre une main qui se hâte, il haït son ami et son amie. Il ne pouvait supporter la présence de Martin dans cette chambre de malade, douce comme une estampe du XVIIIe siècle, quand le lit, le broc de tisane, le bougeoir et la pâleur sur l'oreiller sont plus voluptueux qu'un bosquet de roses. Ah, comme la faiblesse d'Élisabeth le rendait jaloux, faiblesse pathétique, toute proche du sanglot, et vers qui se tendent les bras, le secours, le doux sadisme des hommes, faiblesse qui ressemble à l'amour, qui se courbe vers de romanesques lits, les jeunes femmes mourantes et fatiguées, n'appellent-elles pas vers elles, des dernières forces de leur vie, tous les plus jeunes héros? Et ce regard d'Élisabeth faible et qui bouge et qui n'a plus de résistance, n'est-il point ouvert pour toutes les volontés, pour tous les désirs des hommes? Martin même, quand il la regarde, l'émeut-il? Elle semble hypnotisée. Elle ne s'en va pas, elle reste. Elle se penche, elle semble plier et pleurer. Profond instinct des malades, voix puissante de la génération. Tout le jour, Antoine l'observe. Elle brûle d'enthousiasme, hélas, cette bouche pathétique, passionnée, langoureuse, qui semble modelée par la musique. Une lueur profonde vient de son regard, et quand elle écoute, quand elle répond, c'est avec toute son âme. Antoine la trouve belle et se défie d'elle. Quelle sécurité peuvent inspirer encore celles qui savent leur puissance. Ce que l'homme ne possède jamais complètement, son orgueil, son âme, la gloire, le rêve qu'on se faisait d'un soir de juin à la Villa d'Est, il s'en empare un instant et le touche sur la beauté des jeunes femmes bien-aimées, et elles, qui savent que leurs cheveux, leurs yeux, leurs bouches donnent l'extase, qu'on s'approche d'elles, qu'on rêve sur elles, qu'on les goûte comme on goûterait une ville d'Orient resserrée qui a, sur un même point, ses jardins et ses citernes, son arc de triomphe et ses places glorieuses, son aube, ses couchers de soleil et son chant désespéré, elles, qui savent cela, même fatiguées, même malades, même mortes, elles accueillent, bercent et retiennent la mélancolie d'Adam. Aussi, lorsque Martin semble s'inquiéter, lorsqu'il s'effraie à l'auscultation du cœur délicat de la jeune fille, Antoine lui dit « Tu la connais, demain elle guérira, elle chantera, elle s'éloignera de nous. » En vain, Martin affirme qu'un défaut profond dans cet organisme passionné rend cette vie fragile. Antoine ne l'entend point. Il est tout occupé à lutter contre Élisabeth. Et en effet, elle devenait capricieuse, irritée par la maladie. Quelquefois, quand Antoine s'approchait d'elle avec des mains langoureuses et ce regard où l'âme s'enflamme et s'augmente, elle le repoussait, lui reprochait sa tendre ardeur. Et d'autres fois, quand il se taisait et lui tenait doucement les poignets, elle regardait l'espace devant elle, soupirait, se croyait abandonnée, et cherchait, semblait-il, quelque autre héros qui répondît à son délire. Un jour, qu'il lui lisait son plus cher ouvrage, le livre qu'il achevait et où elle était glorifiée, « C'est peu de choses, mon ami, dit-elle. Si j'avais raconté mon âme, si j'eusse écrit comme vous, mon cœur eût changé la face de la terre. » Et, tenant la main contre son cœur, elle s'écria, comme l'auteur même de Parsifal, « Quelle musique cela devient !» Pourquoi Antoine l'eût-il épargnée quand elle était là, qui emplissait, qui torturait sa vie? Le soir, lorsqu'elle entendait Madeleine jouer au piano le beau carnaval de Schumann, fête bariolée, lourde, étincelante, où passe sans figure de la danse et du désir, elle s'éclairait d'un tel espoir qu'Antoine, avec dureté, lui disait « Ne rêvez pas ». Mais elle rêvait. Elle ouvrait son âme à toutes les armées de la vie. Musique, haute, totale, qui envahissait sans qu'on discerne, qui promettait plus que l'amour. Pour fuir une présence dont toute la grâce le blessait, Antoine se promenait seul par les oppressantes journées qui marquent la fin de l'automne. Un après-midi de novembre, errant ainsi sous la pluie, visitant les provinciales cités de la Seine, il entra dans un petit cimetière dont la douleur l'attirait.